Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue, votre clin d'œil sur l'actualité locale au pays. Aujourd'hui, la Fédération québécoise des municipalités honore les parlers français du Québec avec le balado « Comment tu dis ça? »
Mais
non, c'est au lac, ça, déménager.
Moi, j'entends pas d'accent là-dessus.
Mais non, déménager.
Elle dit qu'elle n'entend pas d'accent, c'est parce que c'est son grand-père.
Non, c'est Lac-Saint-Jean.
Non, c'est la Beauce.
La Beauce.
Deux réalisateurs télé font mouche avec leur nouveau projet, potentiellement Hawkesbury, dans lequel ils explorent les secrets et les contradictions de leur ville natale.
Je comprends pas pourquoi qu'on parle encore de notre potentiel quand il y a tellement de ce potentiel qui semble déjà réalisé.
Girls and Connect brise l'isolement en proposant aux nouvelles citoyennes de la Ville-Reine des ateliers d'expression picturale.
Tout ce que je souhaite, en fait, c'est de réunir la communauté. Et quand je vois toutes celles qui viennent seules et qui repartent accompagnées, je suis la plus heureuse.
En Acadie, l'organisme Radar milite pour soutenir les industries culturelles francophones de la région.
Les artistes ont leur droit de respecter leur art, ont leur droit de leur donner une vitrine.
Et au Nouveau-Brunswick, on transforme un gymnase en une clinique de soins communautaires en l'espace de 6 mois seulement.
Durant la campagne électorale, on a promis 10 nouvelles cliniques collaboratifs des équipes de santé familiale et la Miramichi n'était pas sur la liste. Mais on a une équipe ici qui voulait faire partie de cette solution.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour et bienvenue de nouveau. Merci de nous accompagner pour cette prochaine demi-heure. Boris Chassagne au micro avec vous. Nous irons aujourd'hui faire un tour du côté de la Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Et on lance l'émission avec la radio qui vous parle de balado-diffusion, des accents chantants, des expressions locales, les histoires de villages et de la poésie du quotidien. Les 5 épisodes du balado « Comment tu dis ça » plongent au cœur de la langue française telle qu'elle se parle, se transmet et se transforme dans les différentes régions du Québec. Qu'on se retrouve en Abitibi, sur la base Côte-Nord ou bien au Saguenay, cette série animée par Gabriel Touin a tendu l'oreille aux voix qui façonnent le paysage linguistique québécois. Pour découvrir la petite histoire derrière le ruisseau à Gaspille en basse Côte-Nord, notre journaliste Marie-Ève Dussablon a rencontré la réalisatrice du projet, Catherine-Ève Gadouri.
Comment est-ce que tu décrirais la langue de la Côte-Nord?
Tu sais, en Haute-Côte-Nord, c'est tellement proche de moi que je saurais pas te le... Je sais pas. Je le sais pas comment je la décrirais. Je peux pas te le dire.
Je sais pas s'il y a aussi une différence entre la Haute-Côte-Nord ou juste la Côte-Nord.
Ben oui, il y a plein d'accents par chez nous, là. Tu sais, quelqu'un d'Havre-Saint-Pierre parle pas du tout comme...
On vient d'entendre un extrait du nouveau balado « Comment tu dis ça » auquel des gens de Tête à la baleine ont participé. Pour en parler, on joint Catherine-Ève Gadouri, la réalisatrice du projet. D'abord, d'où vient l'idée?
D'où vient l'idée de comment tu dis ça? En fait, c'est une commande de la Fédération québécoise des municipalités qui nous est arrivée avec ce projet-là. Moi, j'avais fait une série qui s'appelait Ainsi soit-il avec Jérôme 50, qui est un musicien linguiste, sur la langue des jeunes dans les grands centres. Donc, on était assez loin de notre présent sujet. Mais la Fédération avait entendu parler de ça. Les productrices aussi de visages régionaux qui sont... installé à Saint-Pascal de Kamouraska, avait écouté cette série-là, se sont dit, pourquoi pas poursuivre en linguistique. Alors, ils m'ont appelé, puis moi, je suis plongée dans ce projet-là avec grand, grand bonheur. La commande était assez vertigineuse, je dirais, parce que c'est quand même une cartographie sonore du français québécois à travers le Québec. Donc, quand on te demande ça, on propose ça comme commande, ça donne ses solidarités, mais finalement, à travers le concept du road trip, ça s'est fait super naturellement.
Dans notre road trip linguistique, on a même fait un quiz pour tester la connaissance des gens sur la provenance des accents.
On les connaît, les réponses.
Fait que
vous êtes prêts?
Oui.
Ma tante, là, elle aimait bien les enfants, mais elle n'avait pas d'enfants, les autres types, là.
Et puis,
c'était elle qui était la sacre femme pour toute sa parenté, même puisqu'elle aimait les enfants. Puis, là, quand on va déménager, elle
va m'emmener. Mais non, c'est au lac, ça, déménager.
Moi, j'entends pas d'accent là-dessus.
Mais non, déménager.
Elle dit qu'elle n'entend pas d'accent,
tout
parce
est beau.
Que c'est son grand-père.
Non, c'est Lac-Saint-Jean.
Non, c'est la Beauce.
La Beauce?
Oui, mais la Beauce et le Lac-Saint-Jean, là, ils ont quand même des similitudes au niveau de leur...
J'adore les gens de la Beauce.
Nous aussi.
Le concept, c'est ça, est assez large, mais l'objectif principal quand on écoute ces cinq épisodes-là, c'est quoi?
L'objectif principal, c'est vraiment de célébrer finalement le français québécois à travers le Québec. Mais on allait aussi tester un questionnaire parce qu'on s'est inspiré des linguistes qui font des grandes enquêtes linguistiques sur le territoire. Il y a eu une des grandes enquêtes très célèbres, celle de Gaston Dulon, dans les années 70, qui a donné un atlas, l'Atlas linguistique de l'Est du Canada. Donc, on s'est dit, hey, on va reprendre les mêmes questions, on va monter le questionnaire, on va partir sur la route, on va aller voir si le français est toujours aussi vivant, est-ce que les accents sont toujours là, ou il y a plutôt une uniformisation à travers, finalement, les médias. Les jeunes écoutent beaucoup de YouTube français. On est très dans une approche très internationale par rapport à la langue française. Donc, on s'est dit, est-ce que ces variations-là régionales existent toujours? Donc, c'est ça le grand objectif. Puis, ben, il y a encore vraiment des expressions locales. Il y a une envie aussi des artistes de jouer avec cette langue-là, avec une saveur régionale qui a l'air. Donc, ça aussi, on s'est assis avec des artistes sur le chemin. On a interviewé au hasard des gens qu'on rencontrait dans les cafés, sur les quais, dans les arénas. Donc, ça nous donne vraiment un portrait assez complet, je dirais. Puis tous les phénomènes sont décortiqués par des linguistes, parce que nous, on n'est pas linguistes, on est documentaristes. Donc, ils nous ont aidés à comprendre tous ces accents, par exemple, ces phénomènes de prononciation, ces emprunts linguistiques. On a tout un épisode aussi sur la langue et le territoire, comment la langue nomme le territoire. Puis évidemment, on est allé à la rencontre des Premières Nations, des peuples autochtones. Donc, on a vu là aussi à quel point finalement il y a eu mixité hein, entre il y a plein d'emprunts autochtones dans la langue dans le français québécois. Donc ça aussi, c'est super de constater ça. Ça, c'est des linguistes, évidemment, qui nous ont aidés à faire ça parce qu'on l'aurait pas su nous-mêmes. Là.
Pointe à la chaise, lance à gaspille.
Ouais, le à gaspille. La pointe à la vol. Puis ça, il y a toute une définition pour ça. Le à gaspille, les gens qui partaient avec le sac sur le dos pour un bout de temps dedans ont renversé du sucre au bout à gaspille.
Ils ont traversé quoi?
Ils ont renversé le sucre.
C'est pour ça le mot gaspiller, Rousseau a gaspillé. Ils ont gaspillé. C'est la première fois que je l'entends parler.
Ça fait ça des
traits. Est-ce que tu as senti que la langue, les accents, ça venait influencer un peu notre attachement à un territoire?
Très certainement, très certainement. On l'a senti partout. C'est sûr que la langue, hein, ça parle d'identité. Puis quand tu parles d'identité, ben, tu parles de toi, mais de ton patelin aussi, de ta ville, de ton territoire. Moi, à Tête à la Baleine, je suis jamais allée à cet endroit-là. Donc, c'est sûr que découvrir à quel point c'est des gens qui sont entourés d'anglophones, moi, ça, c'est quelque chose que je savais, mais pas aussi fortement. Donc, c'est sûr qu'il y a une espèce d'inter-influence. On a exploré la toponymie, entre autres, quand un des interlocuteurs nous dit, un des habitants de Tête à la Baleine nous dit, ben ici, c'est Cape Frappeau, par exemple. Donc, il y a comme une vraie rencontre entre le Cape anglophone et le Crapaud francophone. Donc, même dans la toponymie, cette mixité-là, cette rencontre-là, elle est super visible.
Le Cape Crapaud. Les autres, regarde, on parle du Cape Crapaud, puis les Anglais parlent du Cape Crapaud aussi. Les deux.
Mais il y a une chose qui m'a surprise, c'est que les gens, ils n'entendent pas vraiment leur accent non plus.
C'est très étonnant de découvrir que non, que finalement, personne n'a d'accent, à part le Saguenay, la Gaspésie, les îles, où là, ils ont une vraie conscience des accents. Mais Wim Remington, qui est un linguiste, grand spécialiste des accents, nous dit que finalement, c'est toujours l'autre qui a un accent rarement soi. Puis on a croisé, par exemple, un étudiant français qui était au Saguenay, Lac-Saint-Jean, qui était à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui lui était convaincu d'avoir l'accent zéro. Là. Ah ouais. Donc, dans le monde de la francophonie, lui, il n'aurait pas d'accent, mais tous les autres en auraient un. Même chose, on a croisé quelqu'un de Magog qui lui est convaincu, de par sa proximité avec Montréal, qu'il n'a pas d'accent à Magog, mais
c'est pas vrai, ça. L'accent zéro, ça n'existe pas.
Exactement.
Ben, merci. Ici Marie-Ève Dussablon pour l'IGL, à Tête à la Baleine.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
de l'audio au petit écran maintenant, quelle que soit sa dimension. La série potentiellement Hawksbury fait mouche auprès des publics du diffuseur privé Bell TV1. Potentiellement Hawksbury qui part à la recherche du potentiel caché de cette ville ontarienne, toute proche des limites du Québec. Une série documentaire qui jette un regard neuf à la fois tendre et critique sur une ville qui, selon l'adage local, a donc du potentiel. Pour atteindre sa cible, les deux créatifs de la série ont adopté un style mi-reportage, mi-théâtre documentaire. Potentiellement Hawksbury qui passe au robot mélangeur des images d'archives, des entrevues sincères et une touche d'autodérision. Les réalisateurs Cédric Bertrand et Stéphane Hunter explorent dans cette série les secrets et les contradictions de leur ville natale à la recherche de ce fameux potentiel. Réussiront-ils à le trouver? Gabriel Poulain est sur leur piste.
On connaît tous une ville comme Hawksbury, un peu maganée, souvent sous-estimée, mais qui cache quand même des perles si on prend bien le temps de creuser. Et c'est exactement ça que la série documentaire Potentiellement Hawksbury essaye de faire en explorant en 5 épisodes les recoins de la ville pour retrouver son potentiel caché. Signé par Cédric Bertrand et Stéphane Hunter d'Esquad Multimédia, deux gars de la place qui connaissent la ville comme le fond de leur poche, la série traite Hawksbury comme un personnage principal avec ses contradictions, ses rêves et ses promesses. Pour Cédric Bertrand, qui anime aussi la série, le projet est autant une lettre d'amour qu'une claque en plein visage pour sa ville natale.
Je comprends pas pourquoi qu'on parle encore de notre potentiel quand il y a tellement de ce potentiel qui semble déjà réalisé. La blague, c'est qu'il y en a pas vraiment une source, il y en a plusieurs. On a tout ce qu'il faut pour réussir. The stage is set, là. Tout ce qui nous manque, c'est, je dirais, peut-être un petit coup de pied dans le derrière, puis une bonne attitude, puis le tour est joué, là.
Il faut dire qu'il s'était lui-même promis de ne jamais revenir vivre à Hawksbury. Pourtant, 10 ans plus tôt, il a racheté la maison de sa grand-mère, et c'est là que l'idée de la série commence à germer. Une caméra dans une main, un micro dans l'autre, et une prémisse qui découle d'un vieil adage local.
Hawksbury, ça a donc du potentiel.
Avec son style mi-reportage, mi-théâtre documentaire, Potentiellement Hawksbury mélange images d'archives, entrevues sincères et une touche d'autodérision. Et la série assume pleinement son identité franco-ontarienne avec un bilinguisme naturel comme celui qu'on entend dans les rues de la ville, explique le producteur Stéphane Hunter.
À la base, la demande était pour la chaîne anglaise de Bell, parce qu'en Ontario, Bell TV 5, c'est juste des émissions anglophones. Donc, on a eu la demande en anglais, puis moi et Cédric, on s'est un peu levé aux barricades, puis on a dit « Ben non, on va le faire en français. » On voulait représenter qui nous sommes comme franco-ontariens, puis je pense que la série le fait vraiment bien.
Et la communauté, elle, regarde la série avec un mélange de reconnaissance et de surprise. Mais pour Cédric et Stéphane, tant mieux. Si la série fait réagir, c'est qu'elle a visé juste. Déjà, les deux complices rêvent à une suite. Potentiellement Sudbury, potentiellement Cornwall, Rockland ou même Chennai.
On a voyagé beaucoup dans les 6-7 derniers mois. On est allé à Windsor, London, Thunder Bay, Terrace Bay. On est allé un peu partout faire du tournage. Puis ce qu'on remarque, c'est que partout où il y a de la francophonie ou pas, on a vu cette année un énorme potentiel dans toutes ces places-là en Ontario. Puis je pense que ça marcherait d'explorer le potentiel de chacune des villes. Puis se poser la question, qu'est-ce que ça prend pour que ça marche vraiment bien ici?
Les 5 épisodes de Potentiellement Hawksbury sont disponibles dès maintenant sur Bell Fibe TV1. Gabriel Poulain, IJL, Ottawa.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Art audio, télévisuel, on reste en Ontario, mais cette fois pour vous parler d'art visuel, car une 20aine de femmes francophones de la région de la Ville-Reine ont répondu à l'invitation de l'organisme communautaire Girls and Connect, qui organise sur une base bimensuelle des rencontres destinées aux femmes francophones de Toronto et de sa région. Peinture et sororité sont donc au cœur des ateliers d'expression picturale qu'elles organisent, l'objectif étant de briser l'isolement que beaucoup de femmes francophones disent ressentir en arrivant au Canada et à Toronto. C'est ce que nous rapporte Shona Molossa, fondatrice de l'organisme Girls and Connect. Et cet enjeu est bien réel. Selon les chiffres publiés par Statistique Canada, 17,1% des immigrants récents au pays ont déclaré l'an dernier se sentir toujours ou souvent seul. Annette Minka est allée à leur rencontre.
«
La peinture était à l'honneur lors du dernier événement organisé par Girls and Connect, un organisme francophone qui aide les femmes expatriées à sortir de l'isolement en facilitant les rencontres et les échanges. Le 6 juin dernier, une vingtaine de participantes se sont retrouvées à David's Village, à Toronto, pour une activité originale, décorer un sac en toile, pinceau en main, dans une ambiance conviviale. Shona, fondatrice de Girls and Connect, nous explique la mission de son organisme.
Je pense que moi-même, en tant que femme francophone expatriée ici à Toronto, je ressentais vraiment ce sentiment de solitude et j'arrivais pas forcément à m'intégrer dans les autres communautés. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un espace pour nous, la communauté francophone. Les événements, en fait, ils sont destinés aux femmes francophones qui vivent au Canada, mais nous pouvons aussi accepter toutes les femmes qui souhaitent apprendre la culture francophone, apprendre le français, qui ont des bases de français et qui viennent d'ici, du Canada. Mon objectif premier, c'est vraiment briser l'isolement, vraiment faire en sorte que les femmes puissent se sentir et un espace à elles, où elles se sentent à l'aise, libres d'échanger, de partager, de se confier, créer des liens forts et durables. Tout ce que je souhaite, en fait, c'est de réunir la communauté. Et quand je vois toutes celles qui viennent seules et qui repartent accompagnées, bah, je suis la plus heureuse.
Pour cette soirée, Shona a fait appel à Yelena, une jeune entrepreneure qui propose des ateliers de peinture bilingues ou en français à travers la ville.
Donc j'adore peindre et j'ai vraiment voulu partager ma passion et à quel point c'était thérapeutique, relaxant et ça permettrait de créer du lien entre les gens. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai lancé mes événements et je suis ravie de le faire avec la communauté francophone et également pour toutes celles qui veulent pratiquer le français. Et je suis très contente de m'associer avec Girls and Connect pour le faire voilà, également, voilà, que tout le monde passe un bon moment, soit content de ce qu'il est créé et surtout créer du lien et ça permet de rencontrer d'autres personnes dans un cadre créatif.
Au cours de la soirée, nous avons rencontré des participantes qui sont venues par simple
curiosité. Je suis tombée sur un post sur LinkedIn et j'étais comme des filles qui se connectent juste entre filles. Il faut que j'y aille.
Et d'autres pour partager un moment entre femmes en français. Pour Elodie, qu'on soit nouvelle ou habituée, l'objectif reste le même, rencontrer d'autres francophones et tisser des liens.
Avant tout, je suis bénévole, donc c'était un choix aussi pour rencontrer du monde. Et oui, rencontrer des personnes francophones, ça fait quand même du bien dans un pays anglophone. D'être à l'aise dans sa langue maternelle, c'est cool.
La barrière de la langue est souvent un facteur d'isolement pour les francophones expatriés. Dans une ville anglophone comme Toronto, ce type d'événement devient alors essentiel, comme nous le confie Tracy, originaire de Maurice, qui participait à sa deuxième activité.
Je viens d'atterrir à Toronto il y a 3 mois. J'ai voulu faire de nouvelles rencontres, vivre de nouvelles expériences et je trouve que Girls and Connect organise de merveilleux événements pareils pour connecter les femmes, surtout d'Afrique, vu que je suis africaine même. Au début, on est toutes timides, mais après, ça nous pousse à aller envers les autres filles et discuter avec elles et apprendre à les connaître. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Arsane et Bénédicte. Qu'elles aussi elles en sont à leur deuxième événement. Donc, je trouve que Girls and Connect, c'est comment rapprocher les filles et nous lier d'amitié. Et voilà.
Lorraine, quant à elle, est venue pour tisser des liens, bien sûr, mais aussi pour peindre dans un cadre bienveillant.
Tout d'abord, c'est pour rencontrer des personnes francophones, parce que c'est très difficile de trouver à Toronto des personnes francophones. Et je suis venue aussi parce que le thème m'a beaucoup inspirée. Je veux peindre la tête d'un panda, mon bébé.
En vacances à Toronto, Laetitia a opté pour une création plus sobre.
Moi, j'ai choisi de peindre vraiment des citations fortes. I'm a strong woman, I am feminist. Donc voilà, je vais essayer de faire des citations et puis de mettre un peu des motifs par-ci, par-là.
Et déjà, les participantes spéculent sur le thème du prochain événement. Une idée semble faire l'unanimité.
Du karaoké, ça peut être sympa.
Alors, je vais dire directement karaoké parce que depuis tout à l'heure, la playlist qu'elle a passée, on fait que chanter depuis tout à l'heure au lieu de... au lieu de dessiner, au lieu de peindre. Donc un karaoké avec des musiques françaises, francophones, ce serait top, je pense.
Tamara et Alexia, toutes deux à leur deuxième participation, espèrent bien pousser la chansonnette lors de la prochaine rencontre. Les paris sont donc lancés pour le prochain événement de Girls and Connect. Karaoké ou pas, ce qui est certain, c'est que l'essentiel sera encore une fois de créer du lien. C'était un reportage d'Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@commercialfréquenceinfo.ca.
Alors toujours, nous traversons le pays cette fois pour rejoindre l'océan des Maritimes et vous parler de l'organisme Radar. Radar, c'est le réseau atlantique de diffusion des arts de la scène en Acadie, un réseau qui réunit depuis 2001 une cinquantaine d'acteurs culturels issus de différents secteurs, dont des diffuseurs communautaires, des sociétés culturelles, des compagnies de théâtre, des festivals, des événements et les directions de salles de spectacle professionnelles, par exemple. Eh bien, tout ce beau monde s'est récemment rencontré à Chétiquan pour participer à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme Radar, c'est D-A-R-T-S. Radar qui s'est donné pour mission de bonifier, d'étendre la diffusion et le rayonnement des arts de la scène d'expression française au Canada Atlantique. Le reportage de Daniel Aucoin à Chétiquan, Nouvelle-Écosse.
L'Acadie des Maritimes déborde d'artistes professionnels dans toutes les disciplines. Les arts de la scène jouent un rôle crucial en Acadie en contribuant à la vitalité de la communauté acadienne et en offrant des plateformes pour la création artistique contemporaine. Cédric Comeau, président de Radar, le réseau atlantique de diffusion des artistes de la scène, nous parle de l'importance du secteur en 2025.
Je crois qu'on est rendu à un point tournant qui les arts de la scène sont très importants parce que les artistes qui travaillent des années à maîtriser leur voix, leurs instruments, on leur doit de respecter leur art, on leur doit de leur donner une vitrine, d'être capable de démontrer leur talent. Et quelle meilleure façon de le faire qu'offrir des spectacles un peu partout dans les provinces de l'Atlantique avec des tournées Radar.
À chaque année, Radar travaille de concert avec le milieu scolaire au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard pour assurer la programmation annuelle de spectacles pour des élèves francophones et d'immersion. On écoute à ce sujet Jacinthe Comeau, directrice générale de Radar.
Bien oui, Radar, on gère aussi le réseau scolaire Cerf-Volant, donc qui dessert les 119 écoles des Maritimes, des provinces maritimes. Donc les jeunes ont accès à au moins deux spectacles par niveau scolaire par année, des artistes professionnels en français. Ça contribue bien sûr à la construction identitaire, à la fierté de la langue. On est très fiers de notre réseau scolaire. Et le CSAP est membre de Radar.
Dans le cadre de la rencontre annuelle, les participants ont eu la chance de visionner le film d'André Gladu, Yalanti disparaît, tourné à Chétiquan en 1976. Dans ce documentaire, on s'interroge sur l'avenir des Acadiens. Voici donc les réponses de Cédric Comeau et de Jacinthe Comeau, à savoir si les Acadiens vont un jour disparaître.
Non. Impossible. Pour moi, c'est impossible. La langue française, l'accent acadien est beaucoup trop riche. Et c'est une valeur qui est transmise de parents à enfants. Et pour moi, c'est impossible que ça disparaisse complètement.
Absolument d'accord. La langue acadienne, ça vient du cœur, ça vient de nos racines. Moi, je pense qu'on va continuer à la transmettre. Puis notre réseau travaille à contribuer à cette transmission-là de la fierté de notre culture acadienne.
Créé en novembre 2001, Radar est reconnu aujourd'hui comme le phare de la diffusion professionnelle et de la promotion des arts de la scène des cultures francophones en Acadie du Canada Atlantique. Au cours de la prochaine année, Radar veut stimuler et soutenir ses membres en leur proposant des ressources pour impulser la diffusion, la professionnalisation et le rayonnement des arts de la scène. Ici Daniel Aucoin pour EJL à Chétiquan.
Daniel Aucoin qui nous apprend aussi cette semaine que des étudiants originaires de l'Ontario et de l'île du Prince-Édouard participent cet été aux travaux de restauration de la forteresse de Louisbourg en Nouvelle-Écosse. C'est que Parc Canada au Cap-Breton qui gère le site vient de signer une entente pluriannuelle avec le Collège Holland de l'île du Prince-Édouard, le Collège Algonquin en Ontario et l'École des arts de la restauration de Willowbank aussi en Ontario. L'entente permettra aux étudiants sélectionnés de participer à la restauration de ce lieu historique national. Retrouvez son reportage sur fréquenceinfo.ca. Et pour conclure cette édition de Point de vue, on reste dans les maritimes pour faire une halte à Miramichi où le gouvernement du Nouveau-Brunswick vient d'inaugurer une nouvelle clinique de soins dans le quartier de Norden à Miramichi. Cette nouvelle installation s'ajoute aux 10 cliniques de soins annoncées lors de la campagne électorale d'octobre dernier. Les détails avec Vincent Lavoie.
La première ministre Susan Holt était bien accompagnée pour inaugurer une nouvelle clinique de soins située dans le quartier Norden de Miramichi. C'est ce qui fut auparavant un gymnase qui a été transformé en moins de 6 mois en clinique communautaire. Elle accueillera dès cet été un total de 5 membres du personnel grâce à un investissement de 1,6 million de dollars. Une clinique communautaire qui ne faisait toutefois pas partie de la dizaine annoncée en campagne électorale.
Durant la campagne électorale, on a promis 10 nouvelles cliniques collaboratives des équipes de santé familiale et on a décrit où il allait aller et le Miramichi n'était pas sur la liste. Mais on a une équipe ici qui voulait faire partie de cette solution, qui ont levé leurs mains avec un bon travail de l'équipe de Jennifer et d'autres. Alors, ils vont être un nouveau centre de santé familiale. Alors, ça ajoute à 11 l'objectif de cette année et moi, j'espère que ça va être 12 ou 13 ou peut-être 14.
Selon la première ministre, ce sont près de 1000 patients qui seront ainsi traités dans la liste d'attente grâce à ce nouveau point d'accès. Le ministre de la Santé, John Dornan, beaucoup moins à l'aise dans la langue de Molière, affirme avoir entretenu des discussions avec la nouvelle ministre de la Santé fédérale, Marjorie Michel.
She wants to know what we are doing and is very keen on following us. There's challenges in every province in the country, but we are describing a model that has worked in other areas that we've tweaked and improved and are spreading it out now. So she's very keen on hearing what we do as a leadership model.
Elle suit avec grand intérêt ce que fait le gouvernement, dit-il. Le ministre affirme avoir utilisé un modèle qui a fonctionné dans d'autres domaines, qui a été peaufiné, approuvé et en cours de déploiement. La ministre pourrait également utiliser le Nouveau-Brunswick comme chef de file dans le domaine, selon le ministre. Les députés locaux Sam Johnson et Michelle Conroy étaient présents. Voici d'abord le commentaire de Sam Johnson, député libéral pour Baie de Miramichi-Négouac.
Tous les différents types de professionnels médicaux ont une approche en façon multidisciplinaire dans une occasion à Nordin. Ça va être mieux pour la santé de tout le monde. Donc, pas juste la ville de Miramichi, mais toutes les circonscriptions de Baie de Miramichi-Négouac-Alnouac.
La députée progressiste conservatrice de Miramichi-Est, Michelle Conroy, a mis la partisanerie de côté pour venir célébrer cette inauguration.
It's a good day for our region. I've been in healthcare for 20 years, so to see our patient wait list going to be dropped by thousands of people, you know, this is what it's all about. So it's a really proud day for Miramichi.
C'est une bonne journée pour la région, dit-elle. Pour elle qui a travaillé en première ligne dans l'administration du secteur de la santé pendant près de 20 ans, voir des milliers de patients sur une liste d'attente recevoir des soins est une victoire. La clinique devrait ouvrir ses portes au cours de l'été. La province s'attend à déployer une 30aine d'équipes de soins familiaux comme celle-ci d'ici 4 ans. L'équipe médicale de la clinique pourrait également s'agrandir plus tard dans l'année avec d'autres membres du personnel infirmier et des spécialistes. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Miramichi.
Voilà, c'est là-dessus qu'on conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes aujourd'hui, Gabriel Poulin, Marie-Ève Dussablon, notre nouvelle recrue à tête à la baleine, Annette Minka, Vincent Lavoie et Daniel Aucoin. Merci à Julia Chénu, rédactrice nationale. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'initiative de journalisme local, Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation qui vous dit merci d'être là. À la semaine prochaine. Ciao.
écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.